how we get round it all.
Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
What's up? Joe RCA, baby, des dead OBs, et vous êtes à l'écoute de Shot.
Where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at?
Switch off your television set immediately, unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente votre animateur, Simon Predge, et je suis en compagnie de la bête féroce, Olivier Biganès. Bonsoir.
Allô, Simon.
Comment tu vas?
Je vais bien, et toi?
Ça va super bien. As-tu passé une bonne semaine?
Oui.
Oui?
Oui.
Pas plus que ça?
Ben,
en fait, on a hâte que le printemps arrive, je pense que c'est ça.
J'ai hâte que le printemps arrive, je te dirais, là, ben, t'es au courant, là, mon petit pitou.
Ouais, ton petit chien était malade.
Malade, là, ça va mieux, tant mieux, on tue du bois.
C'est pas du vrai bois.
Ah, pour vrai?
Fuck.
Attends, ça, oui.
Ah, good, good, ouais, good.
Bon, la console, oui. Fait que oui, ben oui, une bonne semaine, et toi?
Je pense que j'ai ça, je pense qu'il manque de soleil dans ma vie, là, pour être franc. Là.
Ouais.
Ce week-end, là, je suis comme ça, pas déprimé, mais juste comme, mais il y a rien qui te tente, là, tu sais.
Manque de sérotonine.
Ouais, c'est ça. C'est pas grave. On a profité de regarder des films.
Et oui. Hein?
Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quelle surprise! Je savais que vous attendiez une émission spéciale sur le tricot, mais
ouais.
On s'est repoussé à la semaine prochaine. Mais non, on a quand même encore des beaux gros sujets pour vous autres cette semaine. Des sujets que, pour une raison X d'ailleurs, j'ai repoussé depuis bien trop longtemps. Tu sais, on dirait que quand on a parti les oubliettes, j'avais un bassin de sujets que j'avais hâte de parler.
Mm-hmm.
Mais je voulais pas toutes les lancer, ces sujets hot-là, dès le début. Fait que je les ai distancés, puis il y en a que j'ai attendu. Tabarnouche, on est dans notre troisième année, là, je pense.
Oui, oui.
On est dans notre troisième année, puis il y a des sujets que j'ai toujours pas parlé qui étaient dans ma top list quand on a parti le show. J'ai dit, là, ça va faire. On en a deux aujourd'hui dans cette top list-là.
OK, good.
Donc, et toi, tu nous as amené encore une fois un grand classique d'horreur.
Oui.
Bon, un film d'horreur. Horreur, grand classique, ça reste à découvrir ensemble.
Oui.
Moi, je propose qu'on se lance tout de suite dans mon thème d'aujourd'hui. J'ai oublié de préparer la toune avant, fait que je la pars là, puis je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ah oui, c'est parfait. Ah, c'est-tu beau, hein?
Mais c'est Doody.
J'adore ce tune-là.
Premier film que j'ai vu.
Pour vrai?
Oui, quand j'étais petit. Premier film que ma mère m'a fait écouter.
Nice. Moi, c'était Serbian Film. Mais non. Me semble. Donc, je sais pas si vous êtes ce genre de fanatique cinématographique, mais si vous êtes comme moi, bien sûr, vous avez reconnu tout de suite la chanson thème « Somewhere Over the Rainbow » tirée de « Wizard of Oz » de 1939. Mm. Hey, 1939!
Ouais.
Comme dirait ben du monde, ça nous rajeunit pas! Hey, 1939, quand même, c'est pas rien. Puis on le regarde, puis, sauf quelques détails, évidemment...
Oui.
C'est tellement beau et bien réussi,
oui.
Ça aurait pu avoir été fait il y a 3 semaines.
Oui.
Il y a peu de différences qui auraient lieu. Bon, là, je te parle pas de CGI et de cochonnerie, mais à part les coupes de cheveux, on y croit encore aujourd'hui.
Oui.
C'est merveilleux.
Oui.
Mais c'est pas ça le sujet de ma chronique aujourd'hui. Un autre petit bout. La meilleure version, par contre, on va se le dire, c'est Dark. Voyons, c'est quoi? Voyons, Bjork. chante ça dans la prison.
Dancer
in the Dark.
Ah, Seigneur, oui.
Ah, quand elle chante ça, pas de musique, là. Cette shot-là, oui. Là. Oh, my God, que ça me brise le cœur. Anyway, hein, je vous l'ai dit, on parle pas tout à fait de Wizard of Oz. No. Un peu, mais pas vraiment. Je vous explique. Il y a une légende, hein. On va se mettre quand même un petit son d'ambiance, et voilà. Il y a une vieille légende qui raconte que l'album de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, qui est sorti en 1973, et une grande synchronicité avec le film de Wizard of Oz de 1939. Là, bien sûr, hein, je suis sûr, c'est pas une légende méconnue, là, hein, c'est une légende qui est quand même connue, je suis sûr qu'il y en a plein à la maison présentement, ou dans l'autobus, whatever, qui se disent « Ah ben oui, je connais ça, je l'ai vu. » Ouais, mais, tu sais, on oublie vite qu'il y a toujours des gens qui l'ont pas encore vu, il y a toujours des gens qui ont pas encore entendu parler de cette légende-là. C'est pour vous que je jase aujourd'hui. Donc, c'est un grand mystère du cinéma et de la musique, la synchronicité entre Pink Floyd, Dark Side of the Moon et The Wizard of Oz, le magicien d'Oz. Donc, c'est une histoire vraiment fascinante. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre, là. Hein. Tout d'abord, il y a une légende, OK, qui est apparue à un moment donné, on va y revenir, qui dit que si on part, en fait, on va mettre, mettons, le magicien d'Oz, OK, dans son lecteur DVD, dans son VHS, peu importe. Au début du générique, t'as le lion d'MGM qui rugit, OK? Mm-hmm. Là, faut que t'aies ton CD, ou ton, peu importe, là, c'est ton MP3 player, ce que tu veux, ton album Dark Side of the Moon de Pink Floyd, parce que j'espère que t'as ça à la maison, c'est un excellent album, ça presse sinon. Là, t'as ton album de prête. Si c'est un CD, on fait play pause pour que dès qu'on pèse sur play, il part.
Okay.
Le timing est important, là. Il y a même beaucoup de différences d'opinion sur les timings. C'est difficile à être très tight. Il reste que, pour que ce soit plus rapide avec un lecteur CD, play pause. On s'assure qu'il est au début pour que dès qu'on pèse play, clac, ça part tout de suite. Okay? Surtout que c'est pas clair parce que c'est un album qui part en fade in tranquillement. Donc, tu sais, bon. Au troisième rugissement du lion de MGM, c'est là qu'on va peser play sur l'album Dark Side of the Moon. Moi, je vous propose de regarder Wizard of Oz sur mute. Ben, en fait, il faut qu'il soit sur mute, mais vous pouvez le mettre avec les sous-titres comme ça vous permet de suivre le film en même temps. T'sais, mais c'est secondaire. L'album Dark Side of the Moon, pour la durée du film, va jouer, il faut qu'il soit sur loop, hein, important. L'album va jouer 2,5 fois pour la durée du film et ça fit tellement. C'est incroyable. C'est une toute nouvelle expérience de Wizard of Oz. Une toute nouvelle expérience de Dark Side of the Moon. Ça fonctionne les deux ensemble à merveille. Mais même ceux qui l'ont jamais vécu, au-delà de vos attentes. C'est très, très surprenant. J'ai noté quelques exemples de synchronicité entre les deux. Par exemple, là, sont un peu dans le désordre, là. Je joue pas trop, mais c'est pas grave, c'est des exemples. Donc, à un moment donné, Dorothée va se mettre à courir au même moment où dans la chanson Time de Pink Floyd, il va dire « No one told you when to run. » Personne ne t'a dit quand courir. Donc, on a des petits codes comme ça. À un autre moment donné, David Gilmour de Pink Floyd va se mettre à chanter « Home, home again. » Donc, la maison encore. Dans la chanson Breathe, alors que la diseuse de Bonaventure dit à Dorothée de retourner à la maison. C'est timing même. La tune Brain Damage, on s'entend, hein? Brain Damage, elle va débuter au même moment où l'épouvantail va se mettre à chanter « Si seulement j'avais un cerveau ». T'as plein de petites affaires de même. Éventuellement, là, après, pendant la même scène, il va se mettre à danser sur la route de briques jaunes, là, la classique route. Mm-hmm. Et là, Roger Waters va chanter « Got to keep the loonies on the path ». Donc, on doit garder les fous sur le bon chemin. Donc, plein de petits codes comme ça qui te font dire « Ben là, c'est arrangé avec le gars des vues, là. C'est bien trop timé, ça fait pas de sens. » Même chose quand l'épouvantail va se mettre à s'énerver et il va sortir du chemin pour tomber sur le postérieur dans l'herbe, juste à côté, au même moment où les paroles vont dire « The lunatic is on the grass. » Donc, le fou, il est en train justement de devenir fou, de s'énerver, puis il tombe dans l'herbe. Le fou est dans l'herbe. C'est trop bien timé. La toune aussi de Great Gig in the Sky, elle fonctionne merveilleusement dans le film avec l'arrivée de la tornade au début du film. et les deux ensemble, c'est merveilleux. T'as même la phrase qui va arriver, qui va dire par-dessus, t'as comme une sampling de quelqu'un qui parle, il chante pas à ce moment-là dans la tune. Il va juste dire « I'm not afraid of dying » jusqu'à la tornade arrive.
Ok.
T'es comme ça, avec le piano, la voix, c'est grandiose, ça fonctionne à merveille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends une minute. Ah oui, lorsque Dorothée, maintenant arrivée au pays d'Oz, va sortir de la maison, là, tout devient en couleur, et au pays des Munchkins, si on veut. Elle ouvre la porte de la maison, et là, la toune Money débute. Puis là, t'as posé d'être un fan de Pink Floyd, pour savoir c'est quoi Money, là. Don, 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 bon, 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 don, Money! Tout le monde connaît cette toune-là. Là, la toune Money débute exactement quand la porte ouvre. C'était bien timé, bien sûr. La porte ouvre, puis là, avec le petit change au début. Puis, à un moment donné, dans la scène, les nains se mettent à danser, les Munchkins, ils se mettent tous à danser ensemble. C'est tellement sur le beat de la toune, c'est incroyable. Tout le monde danse sur le beat, t'es comme, voyons donc. Qu'est-ce qu'il y a? On a d'autres choses. Ah oui, à un moment donné, Dorothée va coller son oreille sur le thorax de l'homme de fer blanc pour écouter son cœur, ou plutôt découvrir qu'il n'a pas de cœur. Mais c'est au même moment que sur l'album de Pink Floyd, on attend le battement de cœur. Popom, popom, popom. C'est ça fonctionne trop bien. Les scènes très souvent vont se terminer aussi en même temps que les chansons et ainsi de suite. Là, c'est sûr, je vous ai noté les gros points importants, les plus marquants, mais c'est comme ça tout le long. Là, la question, ok, qui vient à l'esprit, c'est qui c'est qui a trouvé ça?
Ben pas juste ça, je me dis pour que ça soit timé comme tu me le dis.
Oui, on va y venir.
Puis que c'est pas, ça peut pas être une coïncidence à ce point-là. Est-ce que Pink Floyd?
Bon, on va faire un saut dans le temps d'abord.
Okay.
On va sauter tout de suite à l'opinion de Pink Floyd.
Ouais.
Parce que Pink Floyd nie tout en bloc.
Ouais.
Il nie en bloc. Puis j'ai des très bons points pour démystifier ça.
Okay.
Parce que c'est sûr qu'ils peuvent dire n'importe quoi, là. Ils peuvent dire non, c'est pas nous. Puis... Mais premier point, là. Puis ça, c'est une opinion personnelle, là, avant de se lancer dans tout le reste. Je sais pas si tu réalises à quel point c'est complexe synchroniser le même album qui va jouer deux fois et demi sur un film. Ça a pas de sens là, ça se réussit, ça serait du génie.
Oui.
OK, ça serait franchement du génie et si ce serait le cas, je m'excuse, mais Pink Floyd s'en vanterait. Parce que ça a jamais été fait à ce point-là avant. J'ai beaucoup de misère à croire que Pink Floyd ne s'en vanterait pas.
Ouais.
Encore là, c'est pas des chums de brosse, je le sais pas comment ils sont, puis c'est le fun, le mystère, c'est possible encore là. Bon, comme je dis, ça c'est mon premier point, c'est mon opinion personnelle. Sauf que... Je vous rappelle que l'album est sorti en 1973, donc il n'y avait aucun moyen de regarder le film en studio pour composer l'album. Il n'y avait pas de VHS encore. Les premiers VHS ont été inventés en 1976. Donc, il n'y avait pas la possibilité en studio d'écouter cet album-là. Ça a été confirmé par les techniciens aussi.
Est-ce qu'il y avait peut-être la bobine du film?
Il y a plein de possibilités, bien entendu, là. Mais tout le monde qui était présent dans le studio, à un moment donné, je me dis, depuis 1973, à un moment donné, la vérité aurait leaké. Hein? On aurait entendu la vérité, quelqu'un se serait laissé échapper dans un bar trop souple, on le saurait. Mais là, tout le monde qui a passé par le studio durant l'enregistrement a confirmé qu'il n'y avait pas de TV là, aucune TV, il n'y avait rien. D'ailleurs, il y a un des gars en entrevue du groupe qui disait que, ben non, tout ce qu'on écoutait le soir de retour à la maison, c'est Mary Poppins. Bon, c'est une petite joke comme ça, mais franchement, là, ce serait un tour de maître. On croit encore aujourd'hui que c'est un immense hasard. Je vais y revenir, il y a d'autres détails. Je vais l'expliquer à la fin. Il y a des spécialistes qui sont avancés sur le sujet, je vais y revenir. Il y a des conspirations, des conspirationnistes, bien sûr, qui en croient rien. Les conspirationnistes, on s'entend, ils croient jamais rien ni personne sauf leur lubie, là. Ça, c'est une chose. Mais ils restent convaincus encore. Il y a beaucoup de monde qui reste convaincu que Pink Floyd l'a fait intentionnellement, bien entendu, probablement. Tous des membres de la Flat Earth Society, par contre. Mais ça, c'est mon opinion.
Oui, Seigneur, il faudrait qu'on débatte de ça.
Premièrement, s'il avait réussi à faire ça, comme tu dis, hein, ça serait trop de génie. Mais en plus, les conspirationnistes disent qu'il y a des codes pour comprendre que c'est vraiment eux, puis qu'ils l'ont admis à travers la pochette.
OK.
Là, je fais juste partager leur opinion. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Dans leur croyance de conspiration, on croit que le prisme, tu sais, vous avez déjà vu la pochette, le prisme avec la bande, la ligne de lumière qui rentre d'un côté et les couleurs qui s'expandent de l'autre. Donc, il y en a qui disent que ça représente le passage du noir et blanc à la couleur dans le film. Mm-hmm. Mais là, c'est poussé ça là qu'un peu, là, on... Le... Je vais revenir à l'explication. On sait toujours pas qui a découvert ça, OK? On sait pas qui a fait la découverte. C'est sûrement un buzzé qui a regardé le film tout en laissant jouer sa musique par-dessus. J'ose penser que ce serait quelque chose comme ça. En réalité, on sait pas c'est qui le premier qui a découvert ça. Mais la première fois qu'on en a entendu parler, c'est sur Internet en 1995, sur un forum dédié aux fans de Pink Floyd, qui était à l'adresse alt.music.pinkfloyd. Bon, à l'époque, c'était un forum pour les fans du groupe, quand il y en avait déjà très peu. Éventuellement, il y a le journaliste Charles Savage qui a publié un article dans le Fort Wayne Journal Gazette le 1er août 95. Et à partir de là, la nouvelle a fait son chemin et s'est propagée. La nouvelle, pas la nouvelle, mais plutôt la légende s'est propagée. Selon les spécialistes, donc, hein, puis c'est même quelque chose que j'ai déjà légèrement discuté dans Ars Moriendi. Il y a plusieurs théories sur les fantômes, puis bon, notre cerveau est... Bon, regarde, ce serait un exemple d'apophénie, OK? L'apophénie, en fait, c'est une altération de la perception. Le cerveau a cette tendance à chercher du sens là où il n'y en a pas, et bien sûr, toute musique ne s'accorde pas nécessairement à un film. Par exemple, Beethoven, ça c'est l'exemple qui était donné par le spécialiste. Par exemple, Beethoven est composé avec des règles vraiment strictes, hein? C'est du classique, ça suit certaines règles et ça s'accorde donc pas à n'importe quoi, bien entendu. Même si Bugs Bunny s'accordait merveilleusement à des grandes compositions classiques, on pense à Fantasia de Disney, c'est possible, bien entendu. Mais bon, c'est difficile de faire fonctionner du Beethoven sur n'importe quoi, c'est normal. Mais l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd est très psychédélique, très expérimental, avec plein de samples. Et l'album, pas l'album, et le film, ben en fait, et l'album et le film, les deux, ont toutes les deux un genre qui rappelle les rêves, une espèce de structure cohésive. Alors, c'est plus facile pour le cerveau de trouver une cohérence entre les deux. Donc, ce serait peut-être une illusion, quoique, comme j'ai donné des exemples avec les phrases, le timing, des fois, il est assez incroyable. C'est dur à croire que c'est pas arrangé que le gars des vues. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Réaliser quelque chose comme ça, c'est difficile. Et je doute fort que ce soit arrangé que le gars des vues, malheureusement. Donc, je crois vraiment au hasard. Il y a aussi... Évidemment, il y a d'autres cas comme ça, mais là, c'est parce qu'après le cas de Pink Floyd et Wizard of Oz, les gens ont commencé à chercher des corrélations dans un paquet d'affaires. Puis, bon, tu peux réaliser vite qu'il y a beaucoup d'albums qui s'accordent super bien à plusieurs films, en fait, quand tu cherches. C'est sûr que là, on a l'archétype avec Wizard of Oz.
Il n'y a pas Alice in Wonderland aussi? Avec un autre,
Oui, c'est vrai. C'est avec quel album déjà?
Je sais pas, mais je sais qu'Alice in Wonderland.
Je pourrais chercher pendant la pause musicale, jeter un coup d'œil. Mais effectivement, c'est pas les seuls. Sauf que Wizard of Oz, c'est le meilleur, le plus incroyable, le plus surprenant, le plus fascinant, parce qu'il y a trop de corrélations incroyables. Mais mettons qu'on reste dans Pink Floyd, il y a aussi des rumeurs par rapport au film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui fitterait avec la chanson Echoes. Une chanson incroyable de Pink Floyd d'une durée de 24 minutes. Je l'ai pas essayé, mais j'ai pas encore regardé, mais à vous de voir. Je vais peut-être faire un lien sur la page de blog. Je sais qu'il est sur YouTube, le mix Echoes et 2001 l'Odyssée de l'espace. Là, est-ce que c'est le film au complet, juste une partie, je ne sais pas. Donc, c'est à découvrir. Si vous avez jamais vu ça, vous le regretteriez pas. Ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à ça. Au pire, si vous le regardez pas au complet, essayez-le. Essayez la première partie, au moins l'album une fois. Vous allez voir, c'est vraiment trippant, puis c'est surprenant. Puis vous allez vite être hypnotisé, vous serez pas capable de ne pas finir le film, j'en suis convaincu.
Toi, est-ce que tu conseillerais, exemple, aux auditeurs de soit aller chercher, parce que c'est sûr que ça existe probablement sur YouTube, la version
complète.
C'est
là que je m'en venais, ouais.
Ou c'est peut-être plus le thrill de tu te times toi-même chez vous.
Ben, moi, je trouve.
Ouais, hein. Tu pars ton CD, t'es. Ouais.
C'est sûr qu'aujourd'hui, il est sur YouTube. Il y a même une édition DVD qui existe de ce mix-là. Mais le fun, c'est de le faire toi-même.
Ouais.
T'sais? Bien sûr, c'est plus complexe de le faire avec un vinyle, par exemple. Il faudrait que tu sois timé à maudit, que tu mettes le film sur pause. Mais avec un CD, ça se fait merveilleusement. C'est le fun de le faire soi-même. C'est le fun de le constater soi-même à quel point la synchro est vraie, là. C'est toi qui l'as synchronisé toi-même. Puis ça, c'est spécial, tu sais. Mais bon, je ne vous incite pas à consommer de la drogue, même si certaines personnes pourraient le faire, mais asseyez-vous confortablement et bon visionnement. Vous aurez plusieurs reprises, vous aurez à plusieurs reprises, donc, de la misère à le croire durant le visionnement. Comme je vous ai dit, c'est disponible sur YouTube. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Il sera disponible sur le blog. Mais je vous suggère de le synchroniser vous-même. Il y en a qui disent que c'est dès que le lion apparaît. Il y en a qui disent que c'est dès que le lion de MGM disparaît. D'autres, c'est au premier. D'autres, c'est au troisième rugissement. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 16-17 ans, alors plus que ça, j'avais 18 ans, je pense, quand j'ai découvert ça avec des amis. Nous autres, on le partait au troisième rugissement du lion. Puis ça fonctionnait. C'est pour ça que moi, je propose le troisième rugissement. Un, deux... Puis dès qu'il se met à rugir, tu pèses play.
Là, parce qu'on
dès qu'il se met à rugir, tu pèses play. Parce qu'il y a une durée,
oui,
là, c'est ça.
De rugissement, le
puis,
fait.
Puis okay. C'est sûr qu'il va avoir un gap d'une seconde, là. C'est pas parfait, là. Mais c'est ce que moi, je faisais à l'époque, puis ça fonctionnait bien. Donc, bon visionnement, belle découverte. Essayez de comprendre, mais je sais pas si ça va vous arriver. C'est pas un dossier évident. Disons que la vie nous joue souvent des tours. Sur ce, ben, on va prendre une petite pause musicale. On va justement aller écouter Pink Floyd, mais pas de Dark Side of the Moon, parce qu'on l'a tout entendu 100 millions de fois. Puis il y a d'autres bonnes tunes de Pink Floyd. J'ai le goût de reculer jusqu'au premier album de Piper at the Gates of the Dawn, avec une chanson qui fit merveilleusement bien avec Wizard of Oz. On va aller écouter Le Gnome, tiré du premier album. Et on revient tout de suite après aux oubliettes sur choc.ca.
I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Grumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last. Whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say, look at the sky, look at the river, isn't it good? Look at the sky, look at the river, isn't it good?
Centronics International presents a terrifying journey into the supernatural, narrated by the master of slithering evil, Rod Serling.
It is tradition that ghosts and ghouls and various other citizens of the grotesque wrap themselves in malevolent mists and deep darkness, disguised as all manner of things. This is a terrifying encounter with the unknown.
tale spun by devils. Encounter with the unknown.
Donc ce soir, je vous parle d'un whodunit.
Whodunit.
Donc The Comeback, aussi connu pour The Day, The Screaming Stopped, aussi pour Hallucination, aussi connu sur Le Retour. Et finalement...
Puis là, on parle pas de la télésérie québécoise à TVA, là.
Non. et aussi, finalement, sur Los Crímenes del Ático.
Oh! C'est-tu pratiqué, celle-là?
Oui!
Nice.
Donc, 1978. Donc, ce petit film-là, qui est britannique, qui est écrit par Murray Smith et réalisé par nul autre que Pete Walker. Pete Walker, on n'en a jamais parlé, puis c'est en retournant voir sa filmographie, je dis, ben, Colin, c'est vrai, lui.
Donc, ouais, c'est ça, c'est un nom qui t'avais en tête, quand même, depuis le début, puis tu n'as jamais sorti.
Puis des films que j'ai vus, mais que j'associais pas à lui en tant que tel. Puis là, quand j'étais voir la filmographie, j'ai dit, ah, ben, coudonc.
Même chose quand on a checké la filmographie avant que ça commence, puis je suis ben, j'ai déjà vu de ses affaires.
C'est ça. Donc, Pete Walker est britannique. Il a eu une certaine renommée comme réalisateur et scénariste du cinéma d'horreur dans les années 70, mais comme la plupart, a commencé en réalisant des petits sexploitation, des comédies érotiques folichonnes.
Beaucoup de courts-métrages aussi. Il y a genre 30 courts-métrages
au début de sa carrière. Donc, c'est à lui qu'on doit certains classiques tels que Die Screaming Marianne en 1971, qui a un poster magnifique ce film-là.
T'es-tu d'accord avec moi, ça rappelle un peu les vieilles affiches d'Hitchcock?
Oui.
Avoue, hein, comme style, là.
Die
comme
Screaming
une grosse
Marianne.
Couleur flat en arrière, puis t'as le look qui est plus blanc qui ressort.
Beaucoup de formes, Joe.
Ouais, beaucoup de formes. C'est très beau.
Die Screaming Marianne, la seule poster ou la VHS que j'ai loué quand j'étais très très jeune, c'est quand même assez graphique pour le temps. Là, c'est un dessin d'une femme qui se tient la gorge plein de sang. Puis bon. Sinon, on a The Flesh and Blood Show en 72.
Magnifique poster.
Oui.
Un peu plus plate comme film.
Oui, c'est ça. Il est fan du poster.
Mais c'est pas, j'ai la grosse boîte VHS en carton. Là,
garde.
Elle est belle en maudit, mais le film, il est tellement décevant.
Sinon, on a House of Whipcord en 74.
Ça aussi, c'est une belle affiche, mais je ne l'ai pas vu, le film.
Oui, il fait partie de ses meilleurs là, au niveau critique.
OK, cool.
On a Frightmare en 74, un de ses plus populaires aussi, un de ses plus gore, si on peut appeler ça comme ça.
Frightmare.
House of Mortal Sin en 1976. Schizo en 76 aussi.
J'ai-tu vu ça? Je suis pas
sûr. Il a une certaine popularité, celui-là aussi.
Je pense que je me suis endormi dessus, mais je suis pas certain. Mais je sens chez nous.
L'arme est un... Voyons, c'est un hachoir.
Ouais, c'est ça, ouais.
Frôle le giallo. House of the Long Shadow en 83. Donc, c'est son dernier long-métrage qui met en vedette Christopher Lee, Peter Cushing. Donc, une brochette d'acteurs britanniques
All-star cast,
impressionnante. Là.
Mais donc, c'est... Un all-star cast qui sortait de la Hammer, en fait.
Oui, parce que... C'est tu l'as mis pensé, je te jure, check ça. n'a jamais tourné pour la Hammer.
Voilà,
il
n'a
jamais fait de film pour la Hammer. Il rejoint la lignée des réalisateurs britanniques snobés à l'époque, hein, comme tel Norman J. Warren, qu'on a déjà parlé ici, qu'on aime bien, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Quoique, Walker avait une attention particulière à la mise en scène. Il y a un certain souci du détail dans sa réalisation, un petit peu plus soigné que Warren. Donc, le synopsis est le suivant. Donc, après une sabbatique de 6 ans, Nick Cooper, un musicien chanteur dans le vent avec ses cheveux fancy, décide de faire un comeback après le divorce de sa dite conjointe Gail. Déjà là, elle s'appelle Gail.
Ah oh ouais,
tu veux divorcer.
Ouais, ouais.
De retour en studio en Angleterre, il va reprendre contact avec son impresario Webster Jones. Donc, incapable de retourner à son ancien condo, lui rappelant trop de souvenirs avec son ex, Jones va lui trouver une chambre dans un immense manoir dans le countryside, c'est super beau, où il pourra écrire et faire ses vocalises. Donc, de toute façon, c'est une bonne chose parce que son ex-conjointe Gail y a été sauvagement assassiné par un mystérieux individu abordant un masque de vieille grand-mère. Donc, mais ça, personne ne le sait encore et son corps est en décrépitude plus les journées avancent.
OK.
Donc, je reviens. Nick sera accueilli au manoir par Monsieur et Madame B, un vieux couple étrange et énigmatique propriétaire des lieux. Donc, lorsque la nuit arrive, Nick est hanté par des cris provenant des couloirs de la maison. Est-ce que c'est le fantôme de son ex-conjointe?
Est-ce que c'est des cris subtils ou c'est des gros cris violents?
Non. Ça commence par des petites pleurs, après ça, c'est des gros cris, plus les nuits avancent et s'allongent.
Cool.
Donc, il en croit trop rien au départ, mais plus son ses jours perdurent, plus il pense perdre la tête.
Ouais.
Il trouve...
Classique maison qui te rend fou, là.
Un peu. T'sais, il va trouver réconfort dans les bras de Linda, la secrétaire de son impresario Harry. de son impresario Webster. Harry, le bon ami Nick, ressurgit soudainement et semble plutôt insistant à ce que Nick retourne à son appartement pour ramasser ses trucs avant de croiser Gail et créer un malaise. Donc, il n'en fera rien. Donc, Nick est de plus hanté la nuit par les cris, les visions troublantes de cadavres laissés au pas de sa porte. Est-ce qu'il est en train de devenir fou? Est-ce que c'est des hallucinations? Puis qui est ce mystérieux, le mystérieux tueur dont Nick ignore toujours l'existence?
Ouais, j'ai hâte que tu nous jases de ça.
Oui.
Parce que tu m'as expliqué ça tantôt, là, puis je trouvais ça un peu weird.
Donc. OK. Donc là, on va jouer à Clou, OK, un peu.
Ah, oh, yay!
OK, donc...
Monsieur Woutarde avec le tuyau dans la bibliothèque.
Parce que c'est assez étrange la façon que c'est apporté ici. Donc, la façon que j'ai listé ceci, c'est les personnages slash suspects. OK?
Ah, ben oui, OK.
Donc, Nick, pour le décrire, bon, musicien-chanteur, c'est un Jack... son vrai nom est Jack Jones, qui était acteur, mais surtout chanteur. OK? On va vous faire écouter un petit extrait de sa belle voix.
Ah oui, parce que ça, c'est un comeback, là. Lui, et il va là pour chanter.
Ben oui.
So I never wrote a Christmas card. The postman passed her by.
Hey, moi, j'ai le goût de les réécouter. Non, poursuis.
Fait que, cet acteur-là en tant que tel est véritablement chanteur. Sa go, tout ça. Puis
c'est quoi, chanteur pop?
C'est un chanteur, écoute, comme j'avais écrit ici, il se la joue Tom Jones, Frank Sinatra puis Tony Bennett.
On voit le genre.
Puis le pire, Colin, de ce que vous venez entendre, c'est même pas lui qui chante.
Ah,
c'est quelqu'un
vrai?
D'autre. Non, c'est Jamie Anderson.
Profitez-en,
vous avez un chanteur sur le plateau de tournage, prenez quelqu'un d'autre. C'est tellement chiant, t'imagines-tu la claque qu'il y a eu?
C'est chiant.
Ah, misère. Donc, sinon, au niveau du personnage de Nick, ben écoute, bon, il aime chanter à Tom Jones, comme vous avez entendu, Tony Bennett. Il a des cheveux fancy, il entend des bruits dans la nuit et il est pas mal pissou. Donc ça, c'est son descriptif. Sinon, ensuite de ça, Gail, son ex-conjointe, donc qui est quand même jouée par Holly Palance. Si on peut se rappeler d'elle, c'est la nanny dans The Omen qui se pitche par la fenêtre et qui se perd devant... Bon,
ouais,
tout le monde
se
souvient d'elle. Donc,
en tout cas, moi, là, je peux pas parler de les autres. Là, je les entends pas.
Écrivez-moi. dans le rôle, finalement, de Gail, qui, soi-disant en passant, tout le monde, clairement, c'est pas elle, okay, est morte. Okay, on la voit tuer. Donc, elle est pas suspecte. Donc, sinon, elle, à part voir de nombreux plans de son cadavre dans l'escalier pour montrer que son corps est dans des compositions de jour après jour, tout ce qu'on sait de sa personnalité, c'est qu'elle aime les côtes de fourrure et se remémorer des souvenirs avant son divorce. That's it. Donc,
j'aime les chats, le spaghetti et les randonnées pédestres.
C'est datit, hein? Harry, son ami, joué par Peter Turner, qui a joué dans The Tempest, lui, au niveau de son personnage, qui a une sexualité très ambiguë, on n'est pas trop sûr.
Mais c'est-tu son jeu ou c'est vraiment dans le scénario?
Ça doit être dans le scénario.
OK.
C'est pas...
Parce que des fois, c'est juste mal joué, c'est ça que je demandais.
Non. Okay. Pas à ce niveau-là. Donc, il aime les pantalons serrés et porter le même chandail à chaque jour que tu le vois de jour après jour. Il porte tout le temps le même Christy de chandail.
Ben, comme moi, mais moi, c'est parce que j'ai pas assez de linge.
Il y a un brin de prédateur sexuel qui sort de lui.
Okay.
Et il est obsédé par le condo de Nick parce qu'il fait juste parler de ça. Mystère.
Ben, c'est une autre époque. Dans ce temps-là, un condo, c'était hot, c'était branché. Non, là, pas beaucoup
condo,
de monde avait ça.
Va donc, condo, ramasser ses affaires. Oui, mais le condo. Mais le condo
ah, ouais.
Oui,
hein?
Oui.
Ah, c'est lourd.
Sinon, Mr. Jones, Webster.
Mr. Jones.
Joué par David Boyle. Lui, finalement, David Boyle, c'est le fameux Bosley de la série Charlie's Angels.
Ah, oui, okay. Oui, celle que je n'ai pas regardée.
Qui a été nominé au Golden Globe une fois pour son rôle. Donc, okay, lui, même. En partant, il a l'air d'un crosseur et il aime secrètement s'habiller en femme.
Ah, OK. Bon.
Oui. Oui.
OK, ben là, c'est ça fait beaucoup de... C'est vrai que hein? C'est bien... Non, mais c'est une belle approche. C'est vrai que ça fait beaucoup clou.
Très, très clou.
Ouais, okay. Tout le monde a sa personnalité.
On joue à Agatha Christie. Donc, sinon, Linda, qui est la secrétaire, ouais, de Mr. Jones, qui est Pamela Stephenson, qui a... qu'on peut voir dans la... C'est une série qui est britannique, qui était très populaire. Not the 9 o'clock news. Et c'est la fameuse photo que tu as trouvée sur Facebook avec ses beaux cheveux très 80s.
Ah! C'est okay. Linda. OK, ben, si vous voulez voir la photo dont, oui, on parle, ça vaut, okay, la peine.
Tout le monde, les auditeurs, là, arrêtez-vous quelques secondes.
Ah oui, vous avez tout un cellulaire.
IMDB,
là.
Ouais. Et tapez Pamela.
Ben, vous pouvez aller voir, au pire, allez voir la page du film, oui, de Comeback 78.
78.
Vous allez voir, c'est sa photo de la comédienne sur sa page sur IMDB.
Hallucinant son hairdo.
Oh, wow, on dirait une photo Sears des années 80. Ça n'a pas de bon sens.
Il y a du spray net là-dedans.
Puis même son linge.
Ah oui, c'est
la photo. Hurle!
Très aidé. Très, oh, 1986.
Ouais.
C'est
précisément,
oh,
oui, oui, oui,
là.
Oui, oui, oui.
Donc, elle, bref, fiez-vous pas à la photo, elle ressemble pas pantoute à ça là-dedans. Mais bon, elle est jolie, aime demander des lifts, porte jamais de brassière et est donc curieuse avec le condo de Nick.
Curieuse.
Une autre qui est curieuse. Je veux voir ton condo, quoi qu'il a l'air. Puis,
ah, ouais, c'est,
oui,
pas bizarre.
À ce point-là.
Le lubie du condo.
Les propriétaires du manoir, Monsieur et Madame B. Donc, Monsieur B, qui est joué par Bill Owen, qui a été dans la série britannique Last Summer of Wine. Donc, lui, en tant que tel, il aime pas parler, il aime jardiner, nettoyer les graffitis sur les arbres de sa propriété, puis il est louche. OK? Donc...
OK, bon. Ça sont toutes louches, finalement.
Oui. Ensuite de ça, Madame B, qui est interprétée par, bon, Sheila Keith, qu'on peut voir dans Frightmare.
Ah, OK.
Entre autres, de Pete Walker, qui a joué dans, je pense, 5 de ses films. OK? Okay. Elle est fucking creepy en partant physiquement. elle aime faire des gâteaux, offrir du brandy à Nick avant qu'elle se couche chaque soir. Puis elle aime pas Linda. OK?
Bon.
Donc, voici nos... je me fais envoyer des messages textes avec la photo de
C'est parfait.
Donc, voici nos suspects, OK?
En tout cas, si les gens se demandaient, oui, si on était live, vous avez la preuve,
oui,
maintenant. On reçoit des messages textes.
Des textos de Pamela. donc... le film se veut clairement comme un whodunit, mais... Si son approche, elle l'approche, bon, de façon différente et un peu maladroite. La cinématographie du film est soignée, l'éclairage, le jeu des acteurs, c'est une réalisation qui est adéquate, c'est très bien maîtrisé. Tout est satisfaisant vraiment de ce côté-là, j'ai rien à dire. Effets spéciaux, c'est dated un peu. Les meurtres sont intéressants au point de vue du budget en termes de violence. Il y a une touche de gore. Oui, c'est de la gouache, tout le monde. C'est très sauce tomate. Mais ça colle. Écoute, c'est un film de cette époque-là. Le tueur masqué avec un masque de... comme de vieille grand-mère, c'est un peu.
Oui, 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 oui.
Ça rappelle un peu Curtains en 83. Je vous rappelle
c'est vraiment le flash que j'ai eu quand
Curtain
j'ai vu les photos.
Curtains a été fait après. OK? Fait qu'est-ce qui a été cherché, son idée de là? Moi, je crois
parce
que oui.
Parce qu'on dirait vraiment que c'est le même masque.
Je crois... absolument que oui. Pourquoi? Parce que l'arme de crime, c'est une genre de faux. Là. Comment t'appelles ça là, pour couper du foin?
Ouais, une faux.
Mais petite.
Okay.
Ça a un autre nom.
Okay.
Et il y a une scène de patinage, la fameuse scène de patinage avec Leslie Donaldson, où t'as la fameuse somme avec le masque voyons, de vieille grand-mère qui patine avec la faux. C'est un classique dans le cinéma d'horreur.
Ouais, ouais, ouais.
Clairement. Clairement, okay. C'était pris de comeback.
Okay? Okay.
Ça peut pas être plus flagrant que ça. Puis c'est correct, c'est correct. C'est très bien réussi dans
quelle année, Curtains?
C'est 1983.
83,
83.
Ouais. 10 ans quand même. Moins de 10 ans, non, 5 ans.
Donc oui, c'est 600, parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est que quand tu le vois, et tu le vois pas souvent, là, le tueur, c'est accompagné d'un bruit strident d'animal assez agressant.
Mais ça, un son aigu, ouais?
Très aigu.
Fais-le.
Non.
Oui, donc.
Je peux pas imiter. Ça s'imite pas.
On n'est même pas payé pour faire le show. Force-toi.
T'as un paquet de bruit en même temps. Ça surprend la première fois. C'est parce que c'est agressant. Puis ça marche. C'est une scène. La scène, finalement, de Meurtre de Gale. C'est pas un punch, OK? Ça tourne autour de son meurtre, le film.
Genre la voix de Cannelle.
Non. Qu'est-ce que tu dis là, toi, Cannelle?
Je sais pas.
Non. Écoutez, regardez le film, vous allez voir. Moi, je trouve que. Moi, j'aime ça. Voir un tueur dans un film qui est accompagné soit d'un bruit, quelque chose qui est propre d'un bruit, son père, on va dire Jason, il y a son... Donc là-dedans, à chaque fois, c'est agressant, comme un animal qui t'attaque. J'ai bien aimé ce petit côté-là. Côté décor, le manoir, qui est d'aspect gothique, là, ça laisse place à une certaine atmosphère de film classique à la Hunting, etc., mais c'est pas trop exploité. C'est correct, c'est juste. La bande sonore de Stanley Meyer est riche et adéquate. On a entendu un petit peu au début. C'est pas de la petite musique cheap. Donc là où le film commence à se perdre et devient maladroit, OK? Quelque chose qui m'a agacé, c'est que Nick n'est jamais au courant de rien.
Ouais.
C'est quand même le protagonisme, OK? Personne n'est jamais au courant du meurtre de Gale. Ever, sauf une personne qui va en perdre la vie, bien sûr. Seul le téléspectateur ici est détective. C'est un petit peu agaçant. T'as l'impression, dans le temps de Vidéo Way, là, quand on regardait des émissions, puis il fallait choisir. Ça me rappelait ça un peu, OK? Donc, il est complètement laissé à part. Lui, c'est à la fin du film, puis c'est quand même... C'est important, tu sais, t'as un meurtre, oui, on voit un corps qui est en décomposition, mais c'est ton ex, puis écoute, comme je parlais tout à l'heure, OK, le film est truffé de personnages weird pour nous mêler, OK?
Ouais, ouais.
Donc, quand tu parlais tout à l'heure, c'est-tu parce que c'est mal joué ou tout? Non, c'est fait comme
ça. C'est pas ça la question.
Webster qui se maquille en femme... Quand tu vois ça, la façon que c'est apporté, puis écoute, tu pourrais être plein de préjugés là, en regardant cette scène-là, puis de te dire, mon Dieu, ça doit être lui, hein, parce qu'il se maquille en femme, puis c'est un impresario, il y a beaucoup d'argent et tout. Ça te fait quand même te poser des questions. Écoute, les seules personnes, les personnes normales, si tu veux, qui l'entourent, c'est peut-être Linda, mais je vendrai pas de punch. Mais c'est fait comme ça. Chaque personne que tu vas rencontrer ont toutes des côtés. Si c'est... Écoute, Nick, pas Nick, Harry, OK? Il y a une scène où... Nick veut partir en date avec Linda. Donc, il l'amène dans un bon restaurant. Et il se fait appeler entre-temps par Nick. « Ouais, t'as-tu ramassé tes trucs chez Linda? Faudrait que t'ailles les chercher, etc. » Il dit « Non, je m'en vais dans une date. » Fais-moi comment sont au restaurant, puis Harry arrive, et t'as Nick qui lui dit carrément, « Ben là, je t'avais dit que je t'en date, tu sais, j'ai pas le temps, puis tout, puis bon, ben je te présente Linda et tout. » Il se la joue très, je parlais de sexualité ambiguë tout à l'heure, il présente que c'est mon brodois, mes meilleurs amis, puis il a l'air très possessif en tant que tel de Nick, en tant la façon qu'il agit. Donc, là, il y a une scène qui vient briser parce que tout est très intéressant depuis le début, mais ça fait pas de sens parce que Nick répète encore « Ouais, mais c'est vrai, là, ton appartement, là, chercher tes trucs, puis elle est morte, là, on le sait depuis le début. Ouais, mais... oui, mais faudrait vraiment que tu y ailles, tu sais, puis c'est tellement douteux, tu me disais, voyons donc, tu sais, comme Caroline.
C'est comme gros un peu.
C'est comme un petit peu too much, tu sais, puis lui dit non, ça me tente pas. Puis là, Linda, j'ai toujours voulu voir ton condo, tout ça, en plein milieu de sa tête, il dit, tu sais quoi, Linda, vas-y avec Harry, moi, je vais rentrer chez nous. Je me dis, voyons donc, genre, comme ça fait 2 minutes que t'es dans le restaurant, t'es prêt à dire, gars, tu vois mon condo, pars avec mon ami que t'as jamais rencontré, puis that's it. Puis, cette scène-là, assez pour en mettre encore plus au niveau de Harry, il y a une scène d'ascenseur, une ascension, si tu veux, où il est très, très, très collé, les vieux ascenseurs de building. où il va se mettre à complimenter les seins de Linda, décrire comment ils sont ronds, que c'est la première chose qu'il remarque chez une femme, et que ses mamelons doivent gonfler, j'ai dit, lorsqu'elle est excitée.
Ben voyons.
Tu sais, tout pour mettre une femme à l'aise, tu sais, dans un
ascenseur. Ben oui, dans un ascenseur, elle peut pas se sauver.
Écoute, c'est bien malaisant. C'est du n'importe quoi, là. Donc, où la jalousie de Madame B lorsque Linda vient au manoir pour faire le coït avec Nick, elle arrive tout le temps au mauvais minute, à mauvaise seconde finalement, puis offre du brandy. Do you want a brandy? Bref, je vous en compte pas trop. Comme Oudonit, ou c'est maladroit, je viens de vous l'expliquer.
Ouais.
C'est agaçant de
Tout voir, mais que eux ne voient rien.
Ne voient rien, ok? Donc ouais, t'es vraiment spectateur, et c'est un peu agaçant qu'il n'y ait pas. Il y a une scène.
Parce qu'eux ne vivent pas le suspense.
Ne vivent pas
là,
le suspense.
C'est juste toi qui le vis.
Mais écoute, à part.
Ouais, ouais, je comprends.
Ou même, on va dire, Nick, qui avec ses cauchemars qu'il fait chaque soir, les cris qui empirent, est-ce qu'il hallucine? Il ouvre sa porte, il voit un cadavre dans une chaise, il ferme, il crie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il pissou, il capote à rien. Je disais, ouvre la porte, le cadavre est plus là. C'est sûr que oui, plus le film va avancer, il y a quand même un certain gant en haleine, tu sais, ils te placent des personnages, des pions qui sont tellement bizarres que t'as pas le choix de douter d'un peu tout le monde en tant que tel.
Ouais.
Donc moi, j'ai trouvé que c'était très agréable.
Okay.
Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ce film-là. J'ai trouvé très agréable, j'en ai mis pour mon compte, je vais peut-être les réécouter, je sais pas moi.
Dans 10 ans,
tu sais, quand je vais avoir oublié un peu. Mais reste qu'il y a eu une autre sortie il y a pas longtemps, je pense, qui est ressortie en Blu-ray.
Okay.
La qualité, c'est super beau, c'est bien travaillé. Moi, je recommande fortement Whodunit.
Cool.
Les fans de thriller, de Mystery House, vous allez trouver votre compte. Attendez-vous pas à quelque chose d'excessivement violent. Il n'y a pas beaucoup de meurtres. OK, je ne vous donne pas le body count. Mais quand
ou donné, ce n'est pas toujours des films très, très sanglants.
Mais
là,
quand ça arrive, c'est assez violent. C'est okay, assez viscéral.
Ah, OK, OK.
Puis ça m'a surpris, gore. Il y a une scène quand même. Oups, on perd un morceau. T'sais, j'ai trouvé ça cool pareil. Donc oui, je le recommande, celui-là. Un petit film de dimanche.
Génial. Merci, Olivier.
Ça fait plaisir.
Il est bien sûr partagé sur la page des Oubliettes, donc www.lesoubliettes.ca. Et là, qu'est-ce qu'on s'en va écouter, Olivier, en musique?
On s'en va écouter The Roach, un grand classique du film Hairspray de 88 de John Waters, que j'aime beaucoup.
Interprété par Gene and Wendell.
Oui.
Et on vous revient tout de suite après avec la VHS insolite.
Where I saw the road walking, you my girl.
Oh yes, on est de retour pour la petite VHS insolite de la semaine. Sais-tu quoi? Sais-tu qu'est-ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps cette semaine? Mais j'ai un disque dur qui a sauté. Je pense que c'est le quatrième qui me saute dans la main. Fait que là, je t'aboute. J'avais pas de cash avant, il faut bien l'admettre. Mais là, je commençais à acheter des disques durs pour faire des backups parce que je tenais de tout recommencer. Puis il y a des affaires que je retrouverai jamais, bien entendu. Dans ce dossier-là, il y avait toutes mes archives de documentaires, longs métrages animés, courts-métrages, spectacles de musique et humour, tout ce qui est érotique et porno, vintage rétro de VHS, ça va être weird, là, et toutes mes VHS insolites. Au-dessus de 500 versions digitales de VHS insolites. Regarde, c'est pas ma première fois. Faut vivre avec, il est trop tard. J'ai sauvé une partie, j'ai sauvé quelques trucs, mais j'ai pas pu sauver le maximum, en tout cas. Fait que j'ai commencé à me ressaucer pour aller rechercher certaines affaires que je veux jamais perdre. Puis, ben, en me ressaucant là-dedans, je réalise qu'on a tellement de stock de VHS insolites, là. Je pense qu'à un moment donné, mais que tu sois pas là, moi, je vais faire un épisode juste de VHS insolites.
VHS insolite.
Il y a tellement de bons stocks que j'ai hâte de vous faire découvrir. Parce que le VHS, ce n'est pas que le cinéma. Oh que non! Et c'est beaucoup d'horreur malgré tout. Et c'est le cas de la cassette d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Peut-être j'avais honte. Mais c'est pas moi qui l'ai réalisé. Fait que c'est pas de ma faute. Et c'est une cassette très troublante. Franchement, là, qui fait peur. On va se le dire, là. How to seduce a woman through hypnosis. Donc, je traduis « Comment séduire les femmes avec l'hypnose ». Donc, VHS, de 1992, VHS américaine, hein, ça peut pas venir de nulle part d'autre. VHS américaine, pour laquelle j'ai très peu d'informations, mais je soupçonne qu'elle a été réalisée et produite par Satan. Ah, oh, c'est sûr. En gros, là, c'est une cassette qui t'apprend comment manipuler une femme pour coucher avec elle. En gros, c'est ça. Dès l'intro, t'as comme des... avec une petite musique 80... C'est super cheap, là. Puis là, pendant ce temps-là, t'as des images de filles en bikini sur la plage, là, très Californie, là,
t'sais. C'est en hypnose.
Pas encore. Mais là, par-dessus, la première phrase de la cassette, c'est « Woman, aren't they beautiful? » Est-ce que les femmes ne sont-elles pas belles? Est-ce que, oh, fuck, ça va être lourd comme cassette. Ben, déjà, comme le commencement, on va même reculer un peu. Avant que le cassette, que vraiment la cassette parte, tu as toujours le petit avertissement au début, blablabla. Dans ce cas-ci, l'avertissement, il y a un avertissement de plus qui te dit, avertissement, cette cassette n'a pas été produite dans le but d'agresser des gens. Disons, vous devez le faire avec leur consentement. Puis dès que le reste embarque, tout ça s'en va au vidange. Genre, ils ont mis ça pour se déculpabiliser, mais la réalité... se protéger, mais la réalité est tout autre. Là.
Ouais.
Tout le reste, là, c'est juste ça. C'est de la manipulation féminine. Ça n'a pas de sens. Donc, là, on a un animateur laid et moustachu dans un décor cheap de salon, là, avec le petit couch, la petite table, le foyer. Là, ouais. Classique. Puis lui, il est assis là tout le long du film. C'est le narrateur. C'est lui qui dit quoi faire.
C'est quelle année, ça, déjà?
92. Okay. 92. Okay. Et là, par-dessus ça, pour qu'on comprenne bien comment ça marche, ben on a du reenactment, comment on dit ça en français,
reconstitution,
ouais. Exactement, t'as de reconstitution avec des comédiens, donc t'as un dude, une espèce de laideron bien ordinaire là, qui s'habille en polo gris et beige là. C'est pas très beau, mais non, en fait on s'en fout de ce gars là mais c'est lui le manipulateur de service pour le propos. Au début, là, il va nous faire une petite intro, le barbu, là, le moustachu, pardon, il va nous faire une petite intro, nous introduire, avant que nous, on introduise des victimes de viol, des futures victimes de viol, on va se le dire. Et là, on va commencer à trouver sa victime dans un bar. Fait que là, on a notre laidron qui s'en va se promener dans les bars, puis là, ça nous prend une mise en situation pour pouvoir bien capter quel type de fille embarquer dans nos supercheries. Fait que là, il s'en va avoir un groupe où il y a trois filles. Il dit « Hey, les filles, ça vous intéresse-tu, l'hypnose? » Là, t'as la première qui fait « Ah non, c'est vraiment de la merde. Moi, je crois pas à ça. C'est vraiment un cave. » Là, t'as la deuxième qui est plus modérée. Oh, je sais pas si j'y crois vraiment. Ça me pousse. C'est blablabla, tu sais, comme mollo, mais il croit pas ben ben. Puis t'as la dernière qui fait « Ah oui, moi ça m'impressionne, j'aime beaucoup ça » et on saute au moustachu dans son salon qui fait genre un genre de « Bingo, on a notre victime okay. ». Genre, c'est vraiment ça.
Wow, okay? Comme l'abduction, comment...
Oui, oui, oui. Wow. Puis là c'est comme « Ok, voici ta cible, la petite innocente qui croit tes lubies. » Bon. Fait que là, finalement, ils vont discuter un peu, puis il va l'inviter à une séance. Fait qu'il n'y a rien qui se passe le soir même.
Okay.
Fait que là, au début, t'es rassuré, mais non, ils vont tout détruire tes rêves. Fait qu'au début, t'es comme, bon, OK, il se passe rien le soir même. Fait que c'est vraiment bizarre, le gars, il s'en va dans un bar, il dit, t'aimes-tu ça l'hypnose? Oui. Hey, bon, je pourrais t'hypnotiser si tu veux, de ces jours. Puis là, il change de numéro, puis il sort du bar, ça en va faire d'autres choses.
Okay.
Finalement, jour de la date, donc, il se fait. En fait, la fille l'invite chez lui. Puis là, on va se le dire. Si après quatre phrases, la fille est prête à t'inviter chez toi, je pense pas que t'as besoin d'hypnose pour coucher avec. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Hein? Il reste qu'elle peut changer d'idée quand tu vas commencer à, ben, à montrer ta face. Parce qu'il était pas très beau, le gars. Mais ça, je déconne. Mais... Donc, ils débarquent chez elle, un de ces quatre. Puis là, ils se mettent à jaser. Puis là, oh, ça te prendrait un endroit confortable pour que je t'hypnose. Évidemment, ils s'en vont dans la chambre. Elle se couche sur le lit. Puis là, ils commencent à l'hypnotiser. Puis elle manipule, puis l'hypnotise. Puis là, quand il est complètement dans les vapes, il se penche, puis il l'embrasse, puis blablabla. Puis là, on enchaîne au moustachu qui dit « Yes, ça, c'est une bonne, ça c'est un bon coup. T'as réussi, blablabla. » T'es comme « What the fuck? » Fait
que ça, c'est tout avant la période du GH, hein?
Ah, ben oui. Puis on y revient. À reconstitution. Là. On va les voir tous les deux en train de baiser dans le lit. Puis le concept, c'est qu'il est supposé être hypnotisé puis que c'est comme ça qu'il a réussi à l'avoir. Oh,
Seigneur!
Oh, my God!
Ça dure combien de temps? Là? Genre 50 minutes?
Non, je pense une cassette d'une trentaine, peut-être 40 minutes.
OK.
Arc! Wesh!
Je veux faire pareil.
C'est... Ben oui, mais c'est ça. À voir. La copie... C'est une cassette qui est d'ailleurs extrêmement rare. Personnellement, je ne possède pas l'original. J'en rêve, mais la seule copie que j'ai trouvée est en vente sur Amazon. Il n'y a pas la boîte. Je suis comme... Je veux l'objet en entier. T'sais. Fait que je ne l'ai pas acheté. J'ai trouvé une version digitalisée qui a été digitalisée réellement il y a à peu près 10 ans, parce que la première fois que je l'ai trouvée, c'est il y a 10 ans. Et aujourd'hui même, j'ai retrouvé la copie et c'est la même copie. Donc, c'est comme s'il y avait une seule copie qui se promenait en ligne, sauf qu'il y a Found Footage Festival aux États-Unis qui l'utilise souvent, qui le projette des fois dans leur spectacle. Ils l'ont déjà fait, en tout cas. Ça se trouve sur une de leurs compilations DVD, mais sinon, il n'y a personne qui a ça, on dirait. C'est extrêmement rare. Donc, la copie que j'ai n'est pas de super bonne qualité. C'est pas qu'elle est pixelisée, c'est que le son de la VHS est mauvais.
Ça rend encore plus creepy.
Ah, c'est très creepy. Mais au final, c'est pas grave, ça vous donne l'opportunité de découvrir cette horreur inhumaine qui ne devrait pas exister.
C'est
on va se le dire, j'en ferai d'autres éventuellement. Des années 80, il y a eu beaucoup de cassettes pour séduire. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes. Les très mauvaises sont les meilleures, vous le devinez. Mais celle-là, c'est la plus dangereuse, selon moi. C'est la plus effrayante, c'est la plus terrifiante.
Mais faut-tu à cave maudit, pourquoi? En tout cas, regardez ça et dites
Ah, mais c'est-tu quoi? Il y en a qui le croient.
Ah, pour vrai?
Je vous invite à trouver cette cassette-là sur Amazon. Il y a une critique en dessous d'un gars qui a laissé une seule critique dans tout l'univers Amazon, et c'est celle-là. Puis il dit « Ne vous laissez pas avoir, ça fonctionne pas, il y a des blablabla. » Finalement, ce qu'il dit, c'est pas « Arc, c'est quoi ce cassette-là, voir que ça existe ou payez pas ce prix-là. » Non, non. Lui, il se dit « Ça ne fonctionne pas. »
Ouais, parce
ça
veut dire... qu'il niaise.
Ça a l'air sérieux, sa critique. Je le sais que c'est flou, je peux me tromper, mais ça a l'air sérieux, sa critique. De la façon que c'est fait, de la façon que c'est écrit, de la façon que c'est qu'il avance son propos, t'es comme, mais voyons, t'es-tu cave? T'as-tu vraiment essayé ça, cette tata, là? En tout cas. Fait que c'est... ouais, fait que selon moi, une cassette qui mérite sa position en enfer, c'est terrible. Tu peux pas faire ça. C'est qui a produit ça puis qui a sorti ça? Je sais bien que c'est une autre époque, mais c'est pas si vieux, mais 92.
Non, 92
c'est vraiment pas si vieux,
Jurassic
là.
Jurassic Park, là. Pas si vieux que ça.
En tout cas, c'est terrifiant. Je vous invite pas nécessairement à le découvrir, mais avec ironie, oui, ça, ça peut être le fun.
Oui, c'est pour ça que je le vois, moi.
Ouais, alors, hashtag on vous croit, bien entendu. Olivier, merci beaucoup. On se laisse avec un petit bout de la toune de Gruesome. Déjà, on n'aura pas grand temps de l'écouter. On est toujours aux dernières minutes. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. On s'en va la semaine prochaine avec Horreur Québec qui va être de retour. Ouais. Laurence, qui devait être là aujourd'hui, malheureusement, elle va être de retour seulement dans deux semaines. Le UN imprévu. Ça arrive.
C'est la vie.
C'est la vie. On va être de retour avec ses chroniques de films de drogue. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.